et l'inconnu du corps et l'inconscient de la pensée. Vous êtes une manière d'être, ça veut dire vous êtes un ensemble de rapports de vitesse et de lenteur entre molécules pensantes, vous êtes un ensemble de rapports de vitesse et de lenteur entre molécules étendues. Et tout ça, c'est l'inconnu du corps et c'est l'inconscient de la pensée. Alors bon, comment il va s'en tirer, lui ? D'où je peux passer à un second problème. Ah oui, s'il s'impose, mon second problème, c'est évidemment, il s'enchaîne. C'est mais après tout, pourquoi est-ce qu'il appelle ça éthique et pas ontologie ? Son grand livre, pourquoi il l'appelle éthique au lieu de l'appeler ontologie ? Il devrait l'appeler ontologie. Non, il devrait l'appeler éthique. Il a bien fait, sûrement il a bien fait. Il savait ce qu'il faisait, quoi. Il avait une raison pour appeler ça éthique. Donc, si vous voulez, mais ça va être le même problème. Je vous soulage, on repart à zéro. On a fini là tout un pan les deux dernières fois et là on vient de finir tout un premier pan sur l'ontologie. Je passe à un second pan. Pourquoi est-ce que cette ontologie, Spinoza l'appelle-t-il éthique ? Bon, et là aussi vous sentez qu'on va tomber en plein dans le problème. Est-ce qu'une éthique c'est la même chose qu'une morale ? Est-ce que ça revient au même ? Si ça ne revient pas au même, d'une certaine manière, est-ce que l'éthique, ce ne serait pas la seule manière dont l'ontologie a quelque chose à nous dire sur comment vivre, que faire ? Tandis que la morale, c'est pas ça. La morale, peut-être que ça implique toujours, mais il faudrait voir pourquoi. Peut-être est-ce que la morale, ça implique toujours la position de quelque chose qui est supérieur à l'être. Peut-être qu'une morale, c'est indissociable de la position de l'un supérieur à l'être. Au point que, si on croit ou si on fait de l'ontologie, l'être en tant qu'être, où l'un, loin d'être supérieur à l'être, est au contraire un dérivé de l'être, sans là, il ne peut plus y avoir exactement de morale. Mais en quoi ? Voilà, je voudrais commencer par une histoire qui n'est pas difficile, mais je voudrais la considérer rapidement pour elle-même. Toute la morale, il me semble, toute la morale du XVIIe siècle, non, je dirais de Platon au XVIIe, hein. Qu'est-ce qui a pu se passer après ? On verra tout ça, mes formules, vous les corrigez de vous-même. Puis longtemps, la morale consistait d'une certaine manière à nous dire quoi ? À nous dire quoi ? Eh bien, le mal n'est rien. Le mal n'est rien. Et pourquoi c'était ça, la morale ? On ne nous disait pas avant tout « fais le bien », on nous disait d'abord « le mal n'est rien ». Curieux, et qu'est-ce que c'est cet optimisme ? Est-ce que c'est de l'optimisme ? Quoi alors ? Quoi ? Voilà que les philosophes étaient des espèces d'optimistes béats pour dire le mal n'est rien. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire ? Il y avait tous les malheurs du monde. Et voilà que ces types, ils continuent à dire le mal n'est rien. Je voudrais donc me réfléchir. Là, vous voyez, on repart à zéro. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire, tous ces gens qui disaient le mal n'est rien ? Depuis Socrate, qui passe son temps à dire ça. Mort. Alors que, oui, le malheur était là. Le mal, il a toujours eu deux formes, le malheur et la méchanceté. Le mal du malheureux et le mal du méchant. Or, ça manquait pas des les Grecs, des méchants et des malheureux. Bien plus que ce qui fait qu'il y a du mal à première vue. Ce qui fait qu'il y a du mal à première vue, c'est que les méchants et les malheureux, c'est pas les mêmes. Tiens, si les méchants et les malheureux c'étaient les mêmes, en effet, le mal ne serait rien, il se détruirait lui-même. Le scandale, c'est que les méchants ne soient pas forcément malheureux et les malheureux pas forcément méchants. Ça arrive de temps en temps, mais pas assez souvent. En d'autres termes, si les méchants étaient malheureux et les malheureux méchants, le mal se détruirait. Il y aurait une auto-suppression du mal. C'est formidable, ça. Il y a un auteur qui a beaucoup joué de ça, tardivement. Il a dit, ben non, hein, vous ne pourrez pas faire autrement. La loi du monde, c'est que les méchants soient heureux en tant que méchants et que les malheureux soient innocents. Il a dit, et c'est ça le mal. Et perdu dans cette vision, il dit Trigou. C'est le marquis de Sade. D'où les deux grands titres, n'est-ce pas, des deux grands romans de Sade, c'est Les malheurs de la vertu et les prospérités du vice. Il n'y aurait pas de problème du mal si il n'y avait pas une irréductibilité entre le méchant par lui-même heureux et l'innocent par lui-même malheureux. Car c'est sa vertu qui ne cesse de rendre Juliette, c'est Juliette la gentille, hein, qui ne cesse de rendre Juliette malheureuse. C'est Justine, non, c'est la méchante Justine. D'accord, bon. C'est pas par hasard que Socrate, lui, déjà dans les dialogues platoniciens, ne cesse de se lancer dans une série de propositions qui, à première vue, nous paraissent débiles. Et qui consistent à dire, dans le fond des choses, le méchant est fondamentalement malheureux. Et le vertueux est fondamentalement heureux. Bien sûr, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça se voit pas, mais il dit, je vais vous le démontrer. Tiens, il va le démontrer. Bon, je précise pourquoi je fais cette longue parenthèse, alors aussi un peu débile. C'est pour vous faire sentir que d'une certaine manière, il ne faut pas prendre les gens pour des crétins. Je veux dire, ce serait ça mon appel. Et que quand des philosophes très sérieux disent, le mal n'est rien, seul le méchant est malheureux, ils ont peut-être une idée très bizarre derrière la tête, et une idée telle que ils sont ravis si on leur dit, mais t'es un rêveur. Peut-être qu'on se trompe sur leur entreprise. Peut-être qu'au moment même où ils disent ça, ils sont très singulièrement diaboliques. Hein. Parce qu'on ne peut pas penser que Socrate y croit à son truc. Il n'y croit pas comme ça. Il ne croit pas que les méchants soient malheureux en tant que méchants. Il sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Donc ma question, c'est, c'est pour ça que je dis, si on ne prend pas Socrate pour un idiot, on va se dire, mais pourquoi il nous dit ça? Dans quelle entreprise il est pour nous dire ça, alors que manifestement, c'est pas comme ça. Il ne faut pas s'imaginer un Socrate tellement perdu dans les idées et dans les nuages qu'il croit que les méchants sont malheureux. La cité grecque abonde de méchants très heureux. Alors, est-ce qu'il veut dire qu'ils seront punis après? Oui, il le dit comme ça. Il le dit splendidement, comme ça il invente même des mythes. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Vous sentez déjà l'outil qu'il lance là, cette espèce de cri, alors, le mal n'est rien. Mais il lance une espèce de provocation, telle que le sort de la philosophie est en jeu là-dedans. À la lettre, je dirais, ils font les idiots. Faire l'idiot, ça a toujours été une fonction de la philosophie. L'idiot en quel sens? En un sens qui va vraiment du Moyen-Âge, où le thème de l'idiot est constant, aux Russes, je veux dire à Dostoïevski, un successeur de Dostoïevski qui est mort il n'y a pas très longtemps, à savoir Chestov. Ça ne forme pas pourtant une tradition. Chestov ne se reconnaît pas dans Descartes. Mais j'essaie de marquer très vite cette tradition. Je ne la repère pas au début. Ça, il faudrait, si quelqu'un avait des idées là-dessus, ce serait très bien, même au hasard de lecture. Il y a sûrement des travaux faits, mais je n'ai pas eu le temps. Je repère au hasard. Nicolas de Cuse, un philosophe très très important, il était cardinal en plus. Nicolas de Cuse est un type très très important de la Renaissance, un très grand philosophe. Le cardinal de Cuse lance le thème de l'idiot. Et ça a quel sens? Ça a un sens très simple. C'est l'idée que le philosophe, c'est celui qui ne dispose d'aucun savoir et qui n'a qu'une faculté, la raison naturelle. L'idiot, c'est l'homme de la raison naturelle. Il n'a rien qu'une espèce de raison naturelle, de lumière naturelle. Vous voyez, par opposition à la lumière du savoir et aussi par opposition à la lumière révélée. L'idiot, c'est l'homme de la lumière naturelle. Ça commence donc avec Nicolas de Cuse. Descartes écrira un petit texte, d'ailleurs peu connu, mais qui est dans les œuvres complètes, où il y a l'idiot dans le titre et qui est un exposé du cogito. Et en effet, lorsque Descartes lance sa grande formule « Je pense donc je suis », en quoi c'est la formule de l'idiot? Elle est présentée par Descartes comme la formule de l'idiot parce que c'est l'homme réduit à la raison naturelle. Et en effet, qu'est-ce que nous dit Descartes à la lettre? Il nous dit « Moi je ne peux même pas dire l'homme est un animal raisonnable ». Il le dit textuellement, là, j'interprète pas. Il nous dit « Je ne peux même pas dire l'homme est un animal raisonnable », comme Aristote le disait, parce que pour pouvoir dire l'homme est un animal raisonnable, il faudrait d'abord savoir ce que veut dire animal et ce que veut dire raisonnable. En d'autres termes, la formule animal raisonnable a des présupposés explicites qu'il faudrait dégager. Or, je suis incapable de le faire. Et Descartes ajoute, je dis, je pense, donc je suis. Bon, alors, le contradicteur serait tout prêt à dire, eh ben, dis, t'es pas gêné, toi, parce que quand tu dis « je pense, donc je suis », il faut savoir ce que veut dire « penser », ce que veut dire « être »,« je pense, je suis », ce que veut dire « je ». Là, Descartes devient très, très curieux, très, très, mais c'est les meilleures pages de Descartes, il me semble. Il devient très subtil, ce qu'il dit « non, c'est pas pareil du tout, pas pareil du tout ». Voilà pourquoi c'est pas pareil. C'est que dans le cas animal raisonnable, il y a des présupposés explicites. À savoir, vous n'êtes pas forcé de savoir ce que veut dire animal et raisonnable. Tandis que lorsque je dis « je pense donc je suis », prétend Descartes, c'est tout à fait différent. Il y a bien des présupposés, mais là, ils sont implicites. À savoir, vous ne pouvez pas penser sans savoir ce que veut dire penser. Vous ne pouvez pas être sans savoir au moins confusément ce que veut dire penser. Vous ne pouvez pas être sans savoir au moins confusément ce que veut dire être. Vous le sentez d'un sentiment qui serait même le sentiment de la pensée. En d'autres termes, animal raisonnable renvoie à des présupposés explicites de l'ordre du concept. Je pense donc je suis ne renvoie qu'à des présupposés implicites de l'ordre du sentiment intérieur. C'est très très curieux cette. Ça m'intéresse d'autant plus que la linguistique moderne retrouve cette distinction des présupposés explicites et des présupposés implicites. Ils sont cartésiens sans le savoir, c'est très très curieux. Il y a un linguiste qui s'appelle Ducrot aujourd'hui qui fait toute une théorie à partir de la distinction des présupposés explicites et des présupposés implicites. Peu importe. Voyez, l'idiot, c'est l'homme des présupposés implicites. C'est ça. La raison comme fonction naturelle. La raison naturelle. Vous ne pouvez pas penser sans savoir ce que veut dire penser, même confusément. Donc vous n'avez pas à vous expliquer. Descartes dit, je n'ai pas à expliquer ce que veut dire. Je pense donc je suis, chacun l'expérimente en lui-même. Tandis que ce que veut dire animal est raisonnable, ça, c'est écrit dans les livres. Et l'idiot s'oppose à l'homme des livres. L'homme de la raison naturelle s'oppose à l'homme de la raison savante, si bien que le cogito sera l'énoncé de l'idiot. Donc ce thème de l'idiot est très fondé dans une tradition chrétienne, philosophique, qui est la tradition de la raison naturelle. Alors là, par quel biais ? Puis il a continué dans tout l'Occident. Il appartient bien à la tradition occidentale. Par quel biais est-ce qu'il émigre en Russie pour être poussé au paroxysme et pour prendre une nouvelle allure ? Une nouvelle allure évidemment favorisée par l'orthodoxie russe, par le christianisme russe. Là donc, j'ai toutes sortes de maillons qui me manquent sur la comparaison entre le thème de l'idiot russe et de... puisque l'idiot est une figure de la littérature russe, mais non fondamentale, pas seulement chez Dostoïevski. Et là aussi, d'une certaine manière, le personnage de Dostoïevski, que Dostoïevski appellera l'idiot, précisément, lui, il est beaucoup plus dramatique que l'idiot de Descartes, bien sûr, sa maladie, etc. Mais il a gardé quelque chose, ça. La puissance de la raison naturelle réduite à soi. Tellement réduite à soi qu'elle est malade. Et pourtant, elle a gardé les éclairs. Le prince, l'idiot, il ne sait rien. Mais c'est l'homme des présupposés implicites qui comprend tout. Cette figure de l'idiot continue à dire « je pense donc je suis » au moment même où il est comme fou, ou bien distrait, ou bien un peu débile. Mais déjà Descartes acceptait de passer pour le débile. Qu'est-ce qu'ils ont ces philosophes à vouloir être le débile ? C'est très curieux comme entreprise déjà. Et ils opposent cette débilité philosophique à la philosophie, puisque Descartes, il oppose ça à Aristote. Il dit non, non, moi je ne suis pas l'homme du savoir, moi je ne sais rien, etc. Socrate, il disait déjà, je ne sais rien, je suis l'idiot, quoi. Être l'idiot de service, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Bon, et ben alors, qu'est-ce qu'il veut ? Je recommence. Qu'est-ce qu'il veut, Socrate ? Quand il dit, ah ben vous savez, mais si regardez bien, il n'y a que le méchant qui soit malheureux. Il pose une espèce de paradoxe de l'autosuppression du mal. Une fois, si le méchant est malheureux, il n'y a plus de mal. Mais pourquoi il n'y aurait pas de mal ou plus de mal ? Le mal n'est rien. Ça veut dire quoi ? Voilà. Ça veut dire, vous vous croyez malin, vous. Vous parlez du mal. Mais vous ne pouvez pas penser le mal. Hein, si le philosophe voulait dire ça, ce serait intéressant. Enfin, ce serait intéressant. Vous ne pouvez pas penser le mal. Pourquoi le philosophe aurait besoin de dire ça ? Vous ne pouvez pas penser le mal. Et je vais vous le montrer, vous ne pouvez pas penser le mal. Le mal n'est rien, ça ne voudrait pas dire le mal n'est rien, ça voudrait dire le mal n'est rien du point de vue de la pensée. Vous ne pouvez pas le penser. C'est un néant. Autant essayer de penser le néant. Oh, tiens. Dans les textes de Socrate, ou plutôt de Platon, le thème « le mal n'est rien » parcourt deux niveaux. Un niveau grandiose objectif et un niveau subjectif. Le mal n'est rien objectivement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout mal se ramène à une privation et la privation se ramène à une négation. Donc, le mal, ce n'est rien. C'est une pure négation. Le mal n'est pas. En effet, il n'y a pas d'être du négatif. Il n'y a pas d'être du négatif. Voilà, c'est très simple. Ça s'accompagne de... C'est très simple et très difficile en même temps. Cette réduction, vous comprenez, du mal ou de la contradiction, si vous voulez, à la privation... et de la privation à la simple négation. Bon, supposons qu'il fasse ça, il développe cette thèse-là. Et subjectivement, le mal n'est rien, ça veut dire quoi? Ben, subjectivement, ça veut dire, et là, Socrate, alors, développe tout son talent, il dit, ben oui, écoutez, hein, je vais vous le montrer par les dialogues. Il fait venir un méchant, il lui dit, tu veux assassiner, hein, tu veux assassiner. L'autre dit, oui, je veux assassiner ça. Je veux tuer tout le monde. Ah, dit Socrate, ah bon, tu veux tuer tout le monde. Mais pourquoi tu veux tuer tout le monde? Alors, le méchant, il dit, parce que ça me fait plaisir. Comme ça, ça me fait plaisir, Socrate. J'ai envie, ça me fait plaisir. Ah, t'as envie. Mais le plaisir, dis-moi, méchant, le plaisir, c'est un bien ou c'est un mal? Alors, là, le méchant, il dit, ah, bah, évidemment, c'est un bien, ça fait du bien, c'est un bien. Socrate, il dit, ah, mais tu te contredis. Parce que ce que tu veux, c'est pas tuer tout le monde. Tuer tout le monde, c'est un moyen. Ce que tu veux, c'est ton plaisir. Il se trouve que ton plaisir, c'est tuer tout le monde. D'accord. Mais ce que tu veux, c'est ton plaisir. Et tu m'as dit toi-même, le plaisir est un bien. Donc tu veux le bien. Simplement, tu te trompes sur la nature du bien. Alors le méchant, il dit, Socrate, on ne peut pas parler avec toi. Alors, vous voyez, c'est extrêmement simple. Le méchant, subjectivement, c'est quelqu'un qui se trompe. Et ça va être très important pour nous, cette formule, le méchant. D'où la formule de Socrate, nul n'est méchant volontairement. Ce qui veut dire, par définition, toute volonté est volonté d'un bien. Simplement, il y en a qui se trompent sur la nature du bien, donc ils ne sont pas méchants volontairement. Ils cherchent le bien. Alors, il dit, je cherche mon bien. Mais Socrate dit, t'as raison, il faut chercher ton bien. Mais évidemment, c'est ton bien. Alors toi, c'est assassiné, très bien, mais c'est toujours un bien, ton bien. Alors quoi? Tu ne peux pas chercher le mal. Alors, le méchant devient fou. Socrate espère qu'il va par là même se détruire lui-même. Mais enfin, ça ne marche à certains niveaux. Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'en retire déjà? C'est que cette philosophie-là, qui nous dit le mal n'est rien, qui nous le dit sur deux modes, sur deux registres, objectivement, le mal est pure négation, il n'y a pas d'être du négatif. Et qui nous le dit subjectivement, vous ne pouvez pas vouloir le mal parce que c'est contradictoire. Vous ne pouvez vouloir qu'un bien. Nul n'est méchant volontairement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pataugent déjà dans quoi, ces philosophes? Non, pas pataugent, ils sont déjà dans quel élément? Ils sont dans l'élément du jugement. En effet, le méchant, c'est celui qui juge mal. Toute la philosophie va être rapportée au système du jugement. Et c'est peut-être ça que la philosophie a inventé d'abord. Même si ça devait être ruineux, catastrophique, je ne sais pas, là, c'est pas, je ne fais aucun jugement de valeur. Je crois que la philosophie est née avec un système du jugement. Et le méchant, c'est celui qui juge mal. Et le philosophe, il est peut-être idiot, mais il est bon parce qu'il prétend juger bien. Supposons, j'en suis loin encore d'arriver à dire ce que je voudrais vous faire sentir. Il faut tellement de mots pour arriver à un petit sentiment minuscule. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, la philosophie serait et se confondrait avec la constitution d'un système du jugement. Ça a été peut-être pour le meilleur et pour le pire. C'est peut-être ça que ensuite certains philosophes ont essayé de secouer et d'y échapper à la philosophie comme système du jugement. Un jugement sans sanction, la philosophie, elle n'a jamais fait mal à personne. Mais c'est vrai que les philosophes, ils n'ont pas cessé de juger. Qu'est-ce qui les autorisait? Sans doute de ce que c'était eux qui avaient inventé le système de jugement, du jugement. Ils avaient fait du jugement un système. Pourquoi et comment? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà, là je vous dis presque le fond, parce que c'est des choses extrêmement simples. Mais je suis tellement mécontent, je suis tellement peu satisfait de ce qu'on dit généralement sur l'origine de la philosophie, y compris les hellénistes, les heideggeriens, etc., que j'essaie de me débrouiller là pour mon compte. Voilà ce que je voudrais dire. Il me semble que la philosophie, elle a toujours commencé en prenant une forme très curieuse qu'elle n'abandonnera jamais, à savoir le paradoxe. Le paradoxe. Le philosophe, c'est un type qui arrive en un sens et un bond à rien, c'est vrai, c'est imaginé dans la cité grecque, là. Philosophe, il se balade sur la place publique, il est toujours prêt à causer. Ah bon, oh, dis où tu vas, Socrate qui commence là, où tu vas, qu'est-ce qui t'arrive, et puis la conversation s'engage. Mais c'est pas n'importe quelle conversation, on appellera conversation philosophique celle où surgit le paradoxe qui désigne une certaine puissance. Certaine puissance ou une certaine impuissance. Et qu'est-ce que c'est le paradoxe au niveau le plus simple? Vraiment, là, je dis des choses rudimentaires. Je me demande pas ce que c'est que le paradoxe. Je cherche un petit fil conducteur. Je crois que le paradoxe au niveau le plus simple, ça consiste à vous dire il y a quelque chose qui est, et en même temps, vous ne pouvez pas le penser. Débrouillez-vous avec ça. X est, et pourtant merveille, admirez ça. C'est impensable. En termes techniques, je dirais, le paradoxe, c'est une proposition qui consiste à poser l'impensabilité d'un étant. Alors oui, ce serait une bonne définition du paradoxe. Ça est, le philosophe dit pas, ça n'est pas. Il faut être là, là, les commentateurs sont vraiment lamentables. Je prends un exemple en apparence différent de ce dont je parle, mais c'est la même chose. Je prends un exemple, il y a un paradoxe fameux dans les premiers philosophes qui s'appellent philosophes, bien plus, il est considéré comme l'inventeur de la dialectique, c'est Zénon. Il y a deux Zénons, hein. Il y a Zénon le stoïcien et Zénon d'Élée. Je parle de Zénon d'Élée, disciple de Parménide, celui qui disait « l'être est ». Voilà, donc le fondateur de l'ontologie. Zénon, il fait de fameux paradoxes qui concernent le mouvement. Et il explique que Achille, par exemple, ne peut pas rattraper la tortue. Il ne peut pas. Et il explique que la flèche ne peut pas atteindre la cible. Et compte, en d'autres termes, Zénon est un idiot. C'est ça, être un idiot. Il explique donc que la flèche ne peut pas attraper la cible, ne peut pas joindre la cible, ni Achille rattraper la tortue. Vous rappelez comment il fait pour l'expliquer? Il divise le parcours d'Achille ou le parcours de la flèche en deux. La seconde moitié, il la divise en deux, etc., etc., à l'infini. Et il y aura toujours une distance, si petite qu'elle soit, entre la flèche et la cible. De même, Achille fait un bond et il couvre la moitié de sa distance, de sa différence avec la tortue. Il faudra qu'il couvre encore la moitié de ce qui reste, la moitié du reste du reste, la moitié du reste du reste du reste, à l'infini, il ne rattrapera jamais la tortue. Voilà. Vous me direz, ah bon, c'est quand même Zénon a une forte culture mathématique grecque. C'est très intéressant. Très très intéressant parce que ça fait intervenir ce que les Grecs avaient monté comme méthode d'exhaustion, c'est-à-dire d'analyse de l'infiniment petit. Donc c'est moins pitrerie qu'il me semblerait, mais en quoi c'est de la philosophie, ça? Vous comprenez, Zénon, il n'est pas idiot, Socrate non plus. Il est idiot d'une autre manière, mais pas la manière dont on penserait. Parce que il sait bien que les choses bougent. Il sait bien que Achille rattrape la tortue. Il sait bien que la flèche touche la cible. Il sait tout ça. De même, Socrate sait bien qu'il y a des méchants. Ça. Bon, s'ils veulent nous dire, c'est tout à fait autre chose. Le mal ou le mouvement sont des étangs. Seulement le problème, c'est comment penser l'étang. Ce que Zénon tente de montrer, c'est que le mouvement en tant que mouvement est impensable. C'est pas que le mouvement en tant que mouvement n'est pas, comme le font dire beaucoup de commentateurs. C'est idiot, ça. C'est que le mouvement en tant que mouvement ne peut pas être pensé. Ce que Socrate veut montrer, c'est que le mal en tant que mal ne peut pas être pensé. Bon, alors là ça devient plus intéressant, c'est ça un paradoxe. Un paradoxe énonce l'impensabilité d'un étang. Mais pourquoi est-ce que ça leur donne un plaisir intense, ces paradoxes? Ils sont ravis. Plus on leur dit, mais t'es débile de dire que ça, le mouvement n'existe pas, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Ils disent pas. Ils disent, oh, bon, comme tu veux, tu peux, toi, mais alors, comment tu te débrouilles de mon paradoxe? D'où la réputation que les philosophes ont toujours eue d'être des bavards. C'est pas des bavards, c'est les hommes les plus silencieux du monde, puisqu'ils pensent que, finalement, à la limite, l'étang est fondamentalement impensable. Ça peut être consolant, parce que si l'étang est impensable, c'est peut-être parce que l'être est pensable, lui. Mais que penser l'être, c'est pas facile non plus. Et que ce serait ça, la philosophie, alors, bon. Mais peu importe. Voilà pourquoi ils disent ça. Pourquoi ils sont tellement contents. C'est pas, à première vue, c'est pas un triomphe pour la pensée. C'est pas une victoire pour la pensée. Loin de là. Elle ne peut pas penser le mouvement, elle ne peut pas penser le mal, elle ne peut rien penser. Qu'est-ce qu'elle peut penser alors la pensée? Elle va penser, l'être est, Parménide. Seule la justice est juste. Les hommes justes, ils sont justes qu'en second. Ce qui est vraiment et totalement juste, c'est la justice. La justice est juste, on peut faire des litanies. La vertu est vertueuse. La sagesse est sage. C'est ce que Socrate fait dans une sorte, dans une série de dialogues éblouissants, mais qui exaspèrent tout le monde. On discute très longtemps pour arriver à la révélation « la justice est juste ». Et il n'y a que la justice qui soit juste. Il n'y a que l'être qui est. Bon, on a envie de dire oh « ben, il ne fallait quand même pas 40 pages pour ça, si, il fallait 40 pages. » Parce que fallait 40 pages, puisque, mais c'est inséparable de ceci, l'étang est impensable. Qu'est-ce qui est pensable? Qu'est-ce qui est pensable? La pure idéalité, l'idée. Bon. Mais enfin, c'est pas tellement brillant. Pourquoi est-ce que les philosophes se réjouissent? Moins ils arrivent à penser l'étang, plus ils sont contents. Plus ils rigolent à leur manière. Ils embêtent tout le monde, tout ça, et puis ils expliquent qu'on ne peut rien penser, on ne peut pas penser le mouvement, on ne peut pas penser l'être, non, on ne peut pas penser le mal, on ne peut pas penser le devenir, on ne peut pas penser tout ce qui fait objet de paradoxe. Ils arrivent en disant, ben oui, on peut penser, la justice est juste, l'être est, etc. L'un est un. Bon. Alors on dit, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comprenez? Ils accomplissent vraiment le destin de la philosophie dans son surgissement, il me semble originel, à savoir constituer un système du jugement. Il s'agit de juger tout ce qui est. Et la possibilité de juger tout ce qui est, c'est quoi? C'est, à la limite, s'élever à la position de quelque chose qui est au-delà de l'être. On jugera ce qui est et on jugera l'être lui-même en fonction de quelque chose qui est au-dessus de l'être. Bon, on retombe sur l'un au-dessus de l'être. En d'autres termes, l'idée de fond de toute cette philosophie, c'est seul le bien, avec un grand B, et c'est par là qu'elle a cette apparence optimiste. Seul le bien fait être et fait agir. Seul le bien fait être objectivement et fait agir subjectivement. Donc le bien est au-dessus de l'être. Le bien, c'est l'un. Dès lors, on peut juger tout ce qui est. Il s'agissait moins de décréter le mouvement, le devenir impensable, que de les soumettre au système du jugement, en fonction de critères qui, eux, ne deviennent pas, qui sont les critères du bien, qui ne sont pas en mouvement, etc., etc. Donc, le bien est à la fois raison d'être et raison d'agir. En latin, ça deviendra le bien comme ratio essendi et ratio agendi. Le mal n'est rien, forcément. Et c'est ça qu'ils veulent dire. Le mal n'est rien, forcément. Puisque seul le bien fait être et fait agir. Le bien est au-dessus de l'être. C'est la condition du système du jugement. Alors finalement, si vous voulez, ce n'est pas au nom d'un optimisme niais, c'est au nom d'une logique, d'un logos poussé à l'extrême. La puissance du paradoxe, c'est le logos. C'est pas le philosophe qui est optimiste, c'est la logique qui l'est. Elle ne peut pas penser le mal, elle ne peut pas penser le mouvement, elle ne peut pas penser le devenir. C'est bien plus tard, que la logique va faire un mouvement considérable sur soi-même pour essayer de penser le mal, l'être et le mouvement. Et la réconciliation de... le mal, le mouvement, le devenir. Et la réconciliation du mal, du mouvement et du devenir avec la logique et avec la puissance de la logique marquera un tournant pour la philosophie. Il faudra la fermer, cette porte. Qu'est-ce que j'ai fait de ma montre? Quelle heure il est? Midi et quart. Oui, ça marquera une date très importante. En gros, on peut dire que la réconciliation de la logique avec l'étant comme tel, avec le mal, le devenir, le mouvement, ce sera quoi? Ce sera le grand romantisme allemand. Ce sera Hegel. À ce moment-là, la logique trouvera le moyen d'accorder un être au négatif. Il y a un être du négatif. Ce sera la réconciliation du logique, si vous voulez, et du tragique. Jusque-là, la logique avait été incurablement optimiste et au service du bien. Bon, voilà. Voilà ce que je voudrais dire, et je voudrais terminer vite, parce que vous en avez assez, mais j'ai peut-être que c'est... Ah oui. Voilà ce que je voudrais dire, enfin. J'ai eu l'air d'abandonner complètement Spinoza. Le moment où jamais d'y revenir, c'est ceci, je vais vous dire. Comment il s'insère là-dedans? J'ai l'air de faire une histoire de la philosophie qui s'en va par tous les bouts. Et c'est très curieux, parce que Spinoza, il ne cesse pas de nous dire, comme tout le monde à l'époque, le mal n'est rien. Il ne cesse pas. Tout le temps, il nous dit le mal n'est rien. Objectivement et subjectivement. Objectivement parce que l'opposition se ramène à la privation et la privation se ramène à la simple négation. Et il n'y a pas d'être du négatif. Subjectivement parce que le méchant, c'est une erreur La méchanceté, c'est une simple erreur. Le méchant, c'est quelqu'un qui se trompe. Donc, il n'arrête pas de nous dire ça. Bien plus, le problème du mal, il le traite pour lui-même dans un texte passionnant dont j'ai parlé la dernière fois, à savoir son échange de lettres avec Blienberg, et qui porte uniquement sur la question du mal. Et pourtant, si vous voulez, alors, à première lecture, on se dit, ah ben oui, il dit ce que nous disait déjà, bien des siècles avant, Socrate, ce que les autres, ce que beaucoup d'autres ont dit, tout ça, c'est le système du jugement. C'est cette logique qui se refuse et qui ne peut pas, qui n'a pensé le mal. C'est le fameux paradoxe, là, du logos. Et puis, quand on lit en même temps qu'on lit, on a une toute autre impression en même temps. Ils sont chiants. On a une toute autre impression. C'est que Spinoza, sous des mots qui ont été mille fois dits, nous dit complètement autre chose. Tout à fait autre chose. Ah oui, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà ce qu'il nous dit. Le mal n'est rien. Et jusque-là, ça va très bien. Jusque-là, ça peut être signé. C'est comme dans des pétitions, vous savez, vous pouvez signer la première phrase et puis vient la seconde phrase, ah là, je ne peux plus signer. Non. Non, ça ne peut pas aller. Eh bien, c'est la même chose dans l'histoire que je vous raconte. Le mal n'est rien. Je dis, ça renvoie à qui si on fait un concours, hein? Alors, on répond, or, qui peut dire ça? Eh bien, Socrate, eh bien, Descartes, Leibniz, Spinoza. Bon, d'accord. À partir de là, la phrase bifurque, le mal n'est rien. C'est une proposition qui n'est pas complète encore. Si on vous dit le mal n'est rien, il faut surtout être prudent, vous attendez, hein, vous attendez. La phrase n'est pas finie. Telle quelle, c'est un non-sens. Puisque le mal peut n'être rien pour les raisons les plus opposées. Alors, vous exigez une flèche, des flèches de bifurcation. Et les uns prennent la première bifurcation. Le mal n'est rien parce que seul le bien fait être et fait agir. Ça, c'est la voie. Le bien, c'est-à-dire l'un au-dessus de l'être. Le bien fait être, c'est-à-dire l'être dérive du bien. L'un est plus que l'être. On va y retourner, hein, alors.
Ouais.
Alors, bon, ça, parce que le mal n'est rien, parce que seul le bien est fait d'être, et raison d'être, et raison d'agir, ça, c'est signé Platon. C'est signé Leibniz, qui bien plus, lui, renouvelle complètement la formule le bien fait être et fait agir, lui donne une interprétation très très curieuse, très belle. Mais enfin, est complètement dans cette première bifurcation. Et puis il y a un certain nombre de philosophes qui disent bien sûr le mal n'est rien. Vous voyez, je ne suis pas limitatif parce qu'il y a en plus ceux qui disent oui, le mal, si, le mal est quelque chose. Il y a un être du négatif. Donc il y a beaucoup de variétés. Mais je m'intéresse à la seconde bifurcation. Une race de philosophes étranges nous disent quoi? Ils nous disent, oui, d'accord, le mal n'est rien. Ils ajoutent, très vite, pour pas trop se faire entendre, ils ajoutent, parce que le bien non plus. En d'autres termes, le mal n'est rien, bien sûr, puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Oh, mais alors ça rebondit, qu'est-ce qu'ils veulent dire, cela? C'est des fous complets, quoi, il n'y a pas de bien ni de mal. Alors quoi, assassiner les gens, on peut y aller. N'importe quoi, il n'y a pas de bien et de mal. C'est l'égalité de l'être, quoi. Bon, d'accord, c'est l'égalité de l'être. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Ah non, qui disent, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bah alors, on leur répond, tais-toi, ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Ce n'est pas les mêmes choses que moi je vais vous défendre et que les autres vous défendent. Hein, ce n'est pas les mêmes choses, ça devient plus intéressant. Mais défendre, pourquoi ? Défendre, ça veut dire quoi ? C'est le système du jugement. Ah d'accord, j'ai dit un mot de trop, c'est pas défendre qu'il faut dire. Alors c'est quoi ? Ah, on va voir. On va voir, c'est un monde complètement différent. Le mal n'est rien puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Donc Spinoza se sert, il est très sournois Spinoza, vous voyez, dans sa loyauté philosophique, dans sa grandeur, il est... Il parle comme tout le monde pour dire quelque chose de complètement différent. Le mal n'est rien, oui, mais moi je suis l'homme qui vous annonce qu'il n'y a ni bien ni mal, et c'est pour ça que le mal n'est rien. Et là encore, longtemps après, ce sera repris par quelqu'un qui a intitulé un de ses livres principaux « Par-delà le bien et le mal ». Et celui qui intitule ce livre principal « Par-delà le bien et le mal » est si mal compris, tout comme Spinoza, qu'il éprouve le besoin d'écrire un autre livre principal, intitulé « La généalogie de la morale », où il montre que la morale est une chose, selon lui, immonde. Mais que, on a quand même mal compris son précédent livre « Par-delà le bien et le mal ». Et il lance cette formule qui pourrait, je vous jure, à la lettre, qui pourrait être signée Spinoza, qui répond à la lettre du spinozisme, qui est « Par-delà le bien et le mal, comprenez qu'il n'y ait ni bien ni mal, qu'il n'y ait pas plus de bien qu'il n'y a de mal, cela du moins ne veut pas dire « Par-delà le bon et le mauvais ». Cela, du moins, ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais. C'est-à-dire, d'accord, il n'y a ni bien ni mal. Mais il y a du bon et du mauvais. Vous me direz, si c'est pour dire ça, donnez-moi le minimum toujours de confiance. Peut-être que c'est énorme comme différence. L'éthique. Il n'y a ni bien ni mal, mais il y a du bon et du mauvais. Voilà exactement la soudure entre l'éthique et l'ontologie. Il n'y a ni bien ni mal pour une raison simple, c'est que le bien n'est pas supérieur à l'être. Il n'y a que de l'être. Il n'y a que de l'être, bien et mal ne sont que des mots dénués de sens. Il n'y en a pas moins du bon et du mauvais. Alors que la morale est l'art du bien et du mal, et de leur distinction, et de leur opposition, et du triomphe de l'un sur l'autre, l'éthique est l'art du bon et du mauvais, et de leur distinction dans la mesure où cette distinction ne recoupe pas celle du bien et du mal. Donc, l'éthique est directement branchée sur l'ontologie, bien plus, je dirais qu'elle l'accompagne tout le temps, mais elle en est le point de départ nécessaire. Ce début qui faisait qu'on ne pouvait pas s'installer immédiatement dans l'être, c'est que seul le débrouillage du bon et du mauvais peut nous porter jusqu'à l'être, le plus vite possible. L'éthique est la vitesse qui nous conduit le plus vite possible à l'ontologie, c'est-à-dire à la vie dans l'être. D'où l'importance du problème. Bon, alors, ce qu'il faut commenter, c'est le bon et le mauvais comme introduction à l'ontologie. À savoir, qu'est-ce que la différence éthique du bon et du mauvais par distinction de la différence morale du bien et du mal ? Eh bien, là, ça me paraît très simple, c'est-à-dire, je voudrais juste achever ce point, lancer juste ce point et remettre la suite, parce qu'il faut que j'aille voter. Je voudrais juste lancer l'analyse. Je dirais, pour que vous y pensiez, pensez-y vous, je voudrais dire dans quel sens je veux développer maintenant. Pour moi, il y a deux différences. Il y a deux différences fondamentales entre la morale et l'éthique, c'est-à-dire entre l'art du bon et du mauvais et la discipline du bien et du mal. C'est que je crois que le bon et le mauvais impliquent deux choses qui ne sont pas du tout, qui sont même inintelligibles pour la morale. Le bon et le mauvais impliquent d'abord l'idée qu'il y a entre les étants, c'est-à-dire les existants, une distinction quantitative. Le bon et le mauvais, c'est l'idée d'une distinction quantitative entre les étants, entre les existants. Et ce qui revient au même, quantitatif. Mais quelle quantité bizarre. L'éthique est fondamentalement quantitative. Et ma seconde idée, c'est que, mais c'est la même, c'est que le bon et le mauvais désignent une opposition entre, une opposition qualitative entre des modes d'existence. Vous voyez, distinction qualitative, distinction quantitative entre les étants, opposition qualitative entre des modes d'existence. Or ça, qu'est-ce que ça veut dire? Du point de vue de l'éthique, le mauvais, je dirais, c'est quoi? Là, je voudrais juste vous faire sentir, en finissant, je voudrais vous faire sentir des choses alors très concrètes, pas du tout mises au point philosophiquement. On nous disait tout à l'heure, du point de vue de la morale, eh ben, le méchant, c'est quelqu'un qui se trompe, c'est-à-dire qui juge mal. Il se trompe sur la nature du bien, il juge mal, il fait un faux jugement. Du point de vue de l'éthique, je crois que le mauvais, ce qu'on appelle le mauvais, c'est aussi du faux. Mais voilà, ce n'est pas du tout la même conception du faux. Parce que, du point de vue précédent, dans le cas précédent, le faux, c'était une détermination du jugement. Et en effet, un jugement est faux lorsque il prend ce qui n'est pas pour être, pour ce qui est. Cette table n'est pas rouge, je dis, la table est rouge, je prends ce qui n'est pas pour ce qui est. Ou l'inverse. Ça, c'est le faux comme qualification du faux jugement. Le faux comme qualification du jugement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sens du mot faux? Et en un sens, c'est très compliqué ces histoires, parce que tous les sens se mélangent. Je dis par exemple, tiens, on me rend une pièce d'or. Et je dis, voyez, le premier sens du mot faux. Faux désigne quoi? L'inadéquation de la chose et de l'idée dans le jugement. Je dirais, un jugement est faux, c'est quand il n'y a pas adéquation de l'idée et de la chose. Et le faux, a très souvent, toutes les philosophies du jugement, a été défini comme ça. Le vrai, c'est l'adéquation de l'idée et de la chose. Le faux, c'est l'inadéquation de l'idée et de la chose. Bon, je dis, il y a un tout autre sens du mot faux, qui précisément ne concerne plus le jugement. On me donne une pièce d'or et je la touche, je la mords. Comme dans les films, je la mords. Ah, elle se plie. Ou bien alors, je prends ma petite bouteille d'acide et je regarde. Et je dis, elle est fausse. Cette pièce est fausse. C'est du toc. Vous me direz, c'est lié au jugement. Parce que bien sûr, ça veut dire... Cette pièce a une telle apparence qu'elle va susciter en moi le jugement, c'est de l'or, alors que ça n'en est pas. Mais ce que je viens de dire à l'instant, c'est la façon dont le système du jugement interprète la fausseté de la pièce. car pour que la pièce d'or fausse suscite un jugement d'après laquelle elle serait vraie. Donc, pour que faux signifie ici une adéquation de l'objet et de l'idée, il faut qu'il y ait eu un faux préalable, c'est en elle-même que la pièce d'or est fausse. C'est pas simplement par rapport au jugement, elle ne suscite un jugement erroné que parce qu'elle se tient fausse en elle-même. Elle est fausse. Faux n'est plus la qualification d'un jugement sur la chose, c'est une manière d'être de la chose. Est-ce que vous sentez ? Je prétends rien dire de philosophique, je prétends indiquer, vraiment c'est du sentiment ce que je dis. Je dis de quelqu'un, mais ce type-là, il est faux. C'est pas du vrai. Curieux, vous me direz, c'est encore du jugement. Bizarre, parce que c'est une espèce de jugement de goût. Je pèse le truc, la chose. Je dis ça va pas. J'ai parfois cette impression devant un mensonge. Devant un mensonge, je sens que quelque chose va pas là-dedans. Pensez aux pages prodigieuses de Proust sur la manière dont il évalue un mensonge d'Albertine. Quelque chose qui cloche. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Il se rappelle même plus ce qu'elle a dit. Il n'y a un rien qui fait qu'il se dit « Mais elle est en train de mentir, c'est abominable, qu'est-ce qu'elle raconte là ?» Il ne peut pas l'assigner. Alors, on peut dire toujours, c'est du domaine du jugement ou du préjugement. Sentez qu'on peut le dire. Ça peut se dire, oui, un philosophe du jugement ramènera ça. Au jugement, c'est-à-dire au rapport de l'idée de la chose. Mais je dis, c'est autre chose aussi. C'est en elle-même que la chose est vraie ou fausse. Vrai ne désigne plus vrai et faux. Ne désigne plus un rapport de l'idée de la chose, mais vrai et faux désigne une manière d'être de la chose. Une manière d'être de la chose en elle-même. C'est complètement différent. Pourquoi on risque de confondre les deux ? Le vrai et le faux comme qualification du jugement sur la chose, et le vrai et le faux comme qualification de manière d'être de la chose. On risque de le confondre, forcément. Je dirais que le second sens de vrai et faux, qui est le sens le plus profond, il me semble, le vrai et le faux comme manière d'être de la chose, la manière dont la chose est à l'être, elle peut l'être vraiment ou faussement. Ça vous intéresse pour l'éthique, ça. Être vrai à l'être, c'est pas juger vrai, ça. C'est vraiment un mode d'existence, ça. Être vrai à l'être. Oh, très compliqué. Ou être faux à l'être. Je dirais, ça, c'est le sens où vrai et faux, ça veut dire authentique et inauthentique. L'authentique, ça vient d'un mot grec, compliqué, c'est vraiment celui qui se tient en lui-même de manière à être, vraiment à l'être. Bon, j'ai comme ça l'impression, devant des existences qui ne sont pas authentiques. Ça ne veut pas dire avoir une personnalité, encore une fois, c'est une manière d'être, l'authentique et l'inauthentique. Par exemple, vous sentez que quelqu'un se force. Vous me direz, vous sentez, c'est un jugement. Non, on va essayer de dire un peu plus que ça. Ce n'est pas un jugement, c'est exactement comme vous soupesez une lettre, vous faites sauter dans votre main une pièce. Trop légère, trop lourde, quoi. Tiens, peut-être qu'on rejoint le thème de la vitesse et de la lenteur. Tiens, il a parlé trop vite. Il a parlé trop vite, il ment sûrement. Ou bien il traîne, il cherche ce qu'il veut dire. Ça ne va pas, non, trop lent là, ça ne marche pas aujourd'hui. Ça marche pas, il va pas bien. Qu'est-ce que c'est que cette évaluation ? C'est comme si on pesait le poids des choses. C'est pas juger ça. C'est pas confronter l'idée et la chose. C'est peser la chose en elle-même. C'est quoi ? Je dirais, c'est quelque chose qui est le contraire du système du jugement. C'est une espèce de monde d'épreuve. D'épreuves, quoi. Mais d'épreuves, reprenons le modèle du corps. L'étonnant, c'est le corps. ce sont des épreuves comme physico-chimiques. Et on n'éprouve pas quelqu'un, c'est le quelqu'un qui ne cesse pas de se mettre à l'épreuve. Il rate sa vitesse, il rate ses lenteurs, c'est inauthentique. Au contraire, vous savez, quand les jours où tout est malheur pour nous, dès le moment où on se lève, on se cogne, on tombe, on glisse, on se fait engueuler partout, alors on devient de plus en plus méchant soi-même, on est toujours en discordance. L'être en discordance est une manière d'être nos jours de malheur. Rien ne marche. Ça a commencé dès le matin. Oh là là, quand est-ce que ça va finir? Quelle journée? Bon. C'est les journées de l'inauthentique. Chaque fois que je vais trop vite, je me cogne. Chaque fois que je vais lentement, je glisse. Il n'y a rien à faire. Vaut mieux se recoucher, mais en me couchant, je ne sais pas ce qui se passe. C'est affreux aussi. Rien ne va. C'est la longue plainte. La longue plainte de l'inauthentique. Oh là là, je suis malheureux. Rien ne va. Bon. Comme la pièce d'or, vous y foutez la goutte d'acide. Ah, c'est l'épreuve, c'est pas un jugement. C'est l'épreuve. Et qu'est-ce que peut la pièce d'or? On ne sait pas ce que peut le corps. Qu'est-ce qu'elle peut, la pièce d'or qu'on vient de me remettre? Elle supporte l'épreuve de l'acide. Si elle est de l'or authentique, elle supporte. Vous voyez, l'épreuve physico-chimique s'oppose au jugement moral. Et je dirais, vous reconnaissez, finalement, ceux qui pensent dans ce sens, on les a toujours appelés des immoralistes. Ils font passer une distinction entre authentique et inauthentique. Bon, ça recouvre pas du tout la distinction du bien et du mal. Pas du tout. C'est une toute autre distinction. C'est très différent. Et vous les reconnaissez à quoi, ces auteurs ?